Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Salut à tous et merci de choisir Radio de la Paix pour vous informer. Nous continuons dans ce numéro d'Economia de parler encore de la balance de paiement avec notre expert en économie et en intelligence économique. Il s'agit de Faustin Ounozon que nous retrouverons dans moins de 3 minutes. Mais bien avant, vous aurez en début d'émission le lexique économique et dans la dernière articulation de ce numéro, les tendances de la bourse avec cette information, l'entrée officielle à la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, de l'opérateur Orange Côte d'Ivoire et nous revivrons avec Jean-Claude Mabéa cet événement.
Le lexique économique. Le lexique économique.
La balance commerciale.
La balance commerciale, c'est le compte qui retrace la valeur des biens exportés et la valeur des biens importés.
La balance des capitaux.
La balance des capitaux est un document qui recense aussi les ventes et les achats d'actifs réalisés dans un pays sur une période donnée.
L'inflation.
Et puis, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit généralement par une augmentation générale et durable des prix. Elle correspond à une augmentation générale des prix des biens et des services dans une économie.
Sur la gestion économique nationale.
Merci de votre fidélité, Monsieur Ounozon, toujours rendez-vous. Monsieur Ounozon, merci de nous éclairer encore une fois sur ce sujet que nous avons abordé la semaine passée. La balance de paiement, document très important, comme vous l'avez dit, dans les transactions d'un pays X. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on s'intéresse donc à notre pays. Monsieur Ounozon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va rappeler avec vous, Monsieur Ounozon, les différents éléments qui composent cette balance de paiement.
Merci beaucoup. Comme nous l'avions dit la semaine dernière, d'abord, il y a une première ligne et au-dessus de cette première ligne, nous avons la balance commerciale. Mmh. Et ajustée à cette balance commerciale, la balance des services. Voilà. Et dans la balance commerciale, nous avons tout ce qui est exportation et importation. Et quelque part, nous avons le solde de cette balance commerciale qui est la différence entre les exportations et les importations. Il en est de même pour la balance des services. On avait même donné quelques indications.
Oui.
En ce qui concerne les services, on a parlé par exemple des frettes et autres.
C'est ça.
Je prends même un cas. Le cas d'un Ivoirien qui va travailler en France pour une période de moins de 12 mois. Et ce qu'il va avoir là-bas comme revenu, lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, ben, il vient avec son revenu. Mm-hmm. Et ce revenu fait partie des services. Et ça fait partie de la balance des paiements.
C'est
lorsqu'il
ça.
Dépasse un an, ça ne fait plus partie de la balance des paiements.
Mm-hmm.
Mais ça fait partie de la comptabilité nationale de l'autre côté, au niveau de la France. Parce que c'est comme un citoyen français.
Mm-hmm.
Il a travaillé pour la France. Quand vous travaillez ici, ce que vous avez comme revenu, ça ne va pas en France ou au Togo ou au Bénin.
Mm-hmm.
Même si vous allez au Burkina, au Mali ou au Togo, pour une période de moins de 12 mois, ce que vous allez avoir comme revenu sera enregistré ici, en Côte d'Ivoire.
Alors, mais justement, sur cet exemple que vous donnez, on sait que beaucoup d'Ivoiriens sont hors du pays. Lorsque chaque mois, quand ces personnes font des transferts aux personnes qui sont ici, est-ce que la balance de paiement prend en compte ces éléments?
Oui, bien sûr. C'est exactement les transferts d'argent, par exemple, que font nos compatriotes qui sont à l'étranger,
mm-hmm.
entrent dans le cadre de la balance de paiement. Et ces transferts d'argent entrent dans le cadre de ce qu'on appelle les transferts sans contrepartie.
Mm-hmm.
Voilà, ce sont des capitaux aussi qui entrent dans notre pays et qui participent à l'éclosion de cette balance de paiement, fort heureusement d'ailleurs.
Mm-hmm.
Ça fait partie des devises parce qu'ils payent en devises, ils font des transactions en devises.
Ah, donc balance commerciale et balance des services qui font partie de la première ligne, c'est cela.
C'est la balance des opérations courantes.
Les deux font partie de la balance des opérations courantes, c'est cela.
Exactement.
La deuxième ligne est composée de quoi?
Alors ça, c'est la balance des capitaux.
Balance des capitaux.
Des capitaux.
Alors pourquoi il est important de s'intéresser aux capitaux proprement dit?
Mais ce sont les capitaux qui mettent l'accent sur la vie d'un pays, la vie économique et financière d'un pays.
Mm-hmm.
Si vous n'avez pas d'entrée des capitaux, c'est un peu comme si vous étiez un pays qui n'avait pas de lendemain.
Mm-hmm.
Vous savez que ce sont les capitaux qui permettent de mettre sur pied ce qu'on appelle les interactions financières entre les différents agrégats. Bon, là, je vais un peu plus loin. Si vous voulez bien, entre les différents secteurs macroéconomiques. Vous avez par exemple le secteur public.
Mm-hmm.
Le secteur public, quand il a besoin d'argent, ben, il s'adresse au secteur extérieur, n'est-ce pas?
Oui.
On va pour nous endetter à l'extérieur. Et ce sont les capitaux que nous allons chercher. Le secteur privé, mais il va à l'extérieur. L'extérieur, c'est la balance des paiements. Soit dit en passant, la balance des paiements En termes d'agrégat macroéconomique, c'est le secteur extérieur et le secteur monétaire et bancaire. Et quand il a besoin d'argent, il va au niveau de la balance des paiements. Donc, les capitaux, mais c'est l'élément primordial en matière de gestion d'une balance des paiements extérieure. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'entrée des capitaux que de sortie des capitaux. Déjà, en réalité, la première ligne elle-même, elle est largement suffisante. La véritable balance des paiements s'arrête au niveau de la première ligne, au niveau de la balance des opérations. Si à ce niveau, vous n'avez pas pu atteindre l'équilibre. Mais là, même, ce n'est pas un équilibre qu'on recherche. On recherche un déséquilibre, mais favorable.
Favorable.
Voilà. Et si vous ne l'avez pas atteint, alors vous allez au niveau de la deuxième ligne. Quoi qu'il en soit, elle est là. Mais vous êtes obligé de faire très attention.
Mais voilà. C'est des lignes, je peux dire, liées, non ? La première ligne et la seconde ont une interaction, en fait.
Oui, bien sûr. Si vous avez, au niveau de la première ligne, si vous avez une balance des opérations courantes qui est négative, c'est-à-dire de peut-être 50 milliards, c'est-à-dire qu'il vous faut 50 milliards pour pouvoir agencer vos opérations financières avec l'étranger. Si vous n'avez pas ces 50 milliards, vous ne pouvez pas acheter des produits vis-à-vis de l'étranger. Maintenant, si la deuxième ligne vous permet de faire entrer des capitaux à hauteur de 60 milliards, par exemple, vous gagnez déjà 10 milliards. Vous épongez les 50 milliards qui étaient une dette vis-à-vis de vos transactions financières avec l'étranger.
Donc, concrètement, c'est nos demandes de prêts, nos relations avec les institutions financières. Voilà. C'est à ce niveau.
C'est à ce niveau. Okay. Nos relations avec les institutions financières. Donc. C'est pourquoi je le disais, c'est sur fond de rapports diplomatiques.
C'est cela.
Voilà, il faut entrer dans le concert des nations.
Avoir de bonnes relations favorise justement de bonnes entrées d'argent.
Si vous n'avez pas de bonnes relations, vous ne pouvez pas avoir des investissements directs étrangers. Vous adressez à un pays, vous êtes peut-être, vous n'êtes pas en de bons termes avec ce pays, mais de vous à moi, les opérateurs économiques ne viendront pas chez vous.
Comme quoi, il ne faut pas vivre en autarcie. Hein?
Je vous en prie.
Justement. Alors, donc, cette ligne, elle est importante, justement. Si vous n'avez pas, par rapport à votre commerce avec l'extérieur, réussi à engranger assez d'argent pour votre développement, il y a aussi vos amis, il y a aussi les structures qui peuvent vous prêter de l'argent pour réaliser vos objectifs. C'est à ce niveau aussi qu'on analyse hein, pour la deuxième ligne.
Exactement. Je peux me revenir encore un peu sur la première ligne.
Oui.
Tout à l'heure, je parlais d'un taux de croissance macroéconomique pour deux pays qui ont le même et l'un va trouver sa force dans la première ligne et puis l'autre sa force dans la deuxième ligne. Mais si vous me demandez de choisir, je choisirai la première ligne parce que là, c'est une force qui est personnelle.
Intrinsèque.
Voilà, c'est votre valeur intrinsèque. Alors que de l'autre côté, mais vous devez compter largement sur les autres avant d'avoir ce taux de croissance, peut-être de 7% par exemple.
Est-ce que ce n'est pas justement pour faire un peu la politique, ce qu'on reproche aux pays africains hein, de toujours emprunter, de devoir un peu son développement aussi à l'extérieur ? C'est nécessaire. Vous lui avez expliqué dans une de nos émissions que emprunter est nécessaire pour le développement, mais trop emprunter, de fois, crée une dépendance.
Oh, bon, ça, on l'a déjà dit ici. Bénéficier des prêts vis-à-vis de l'étranger, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, on ne prête qu'à ceux qui sont susceptibles de rembourser. Voilà, et aujourd'hui, il y a des pays développés, des pays riches, mais qu'on prend un exemple, qui ont un taux d'emprunt près de 116 à 120%. Alors que nous, on est à moins de 50% actuellement.
Ouais.
Mais ce n'est pas pour autant que ces pays-là soient des pays pauvres. Tout dépend de ce que vous faites de l'endettement. C'est ce que j'ai toujours dit. Et l'endettement, ce n'est même pas un couteau à double tranchant. Si vous savez utiliser l'endettement, mais vous allez vous développer. C'est ce que j'ai toujours dit. Tout le monde a besoin d'une seconde ligne. Mais ce que moi, je souhaiterais, c'est que les pays fassent en sorte que la première ligne soit beaucoup plus cohérente. Parce que c'est de là que vous tirez votre véritable force. Si vous voyez que votre balance commerciale est largement excédentaire, elle est positive, et que c'est la balance des services qui vous crée tous les problèmes, mais moi j'estime, hein, pour ma part, qu'il faut voir dans quelle mesure il faut essayer de gérer d'une manière un peu plus cohérente cette balance des services-là. Si c'est le fret, qu'il soit aérien ou alors maritime, qui vous crée des problèmes et qui entraîne votre balance des opérations courantes vers une balance négative, mais il faut voir dans quelle mesure vous pouvez certainement créer un armement ou alors faire partie des armements qui existent.
On en a connu en Côte d'Ivoire. Hein, il y avait des sociétés d'État, Citram et bien d'autres, qui s'occupaient justement des fret maritimes. Les autorités en parlent encore, essayer de constituer une flotte ivoirienne, justement, pour aider à transporter nos productions, parce qu'on dépend, pour l'instant, de l'extérieur à ce niveau.
Je ne vous le fais pas dire, mais le jour où on va régler ce problème une fois pour de bon, je crois que déjà il y a une relance économique et financière qui est perceptible en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous allons remarquer, ce sera une relance tout à fait exceptionnelle. Parce que toute la première ligne sera à nous, toute la deuxième ligne sera non. Et nous allons avoir un solde monétaire largement négatif, ce qui va nous permettre de soutenir la demande de monnaie intérieure.
À ce niveau, justement, vous donniez des conseils pour la seconde ligne, la deuxième ligne qui parle des balances des capitaux. À quel niveau on analyse le côté efficacité, justement, de cette ligne-là? Comment on sait que, effectivement, pour les capitaux, je suis dans un niveau positif ou je suis excédentaire, par exemple?
D'abord, il faut avoir de bons rapports bilatéraux. Ça veut dire pays à pays. Et dès lors où ces rapports bilatéraux sont bons, mais il faut en profiter. Mmh. Et il faut mettre sur pied des actions économiques et financières pour bénéficier des prêts de vos amis et des autres pays qui vous estiment et qui vous aiment bien. Ça, c'est la première des choses. Et au-delà de ces rapports bilatéraux, il y a des rapports multilatéraux. C'est entre un pays et par exemple des institutions comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, et j'en passe. Mais si vous avez de bons rapports, des rapports qui sont francs, si vous avez mis sur pied des politiques économiques et financières viables, des politiques économiques et financières qui vous amènent vers le développement, mais il va sans dire que vous allez bénéficier des capitaux conséquents pour développer votre pays. Donc il faut être dans de très bonnes conditions. Ces conditions qui sont réclamées un peu partout dans le monde. Il faut respecter les droits de l'homme, il faut mettre sur pied une gestion efficiente de tout ce que vous avez comme revenu. Lorsque vous respectez ces principes, il va sans dire que vous allez bénéficier d'énormément de capitaux émanant des institutions financières internationales et même des autres pays.
Alors, c'est vrai, ce que vous dites m'inspire un peu cette question récurrente, la souveraineté des pays. Justement, pour devenir un pays souverain, il faut que pour la première ligne, on soit à un niveau excédentaire qui nous donne assez de devises pour éviter d'utiliser le plus la deuxième ligne, c'est cela.
Voilà, la souveraineté, en réalité, elle commence là-bas. La souveraineté ne signifie pas s'élever et puis battre sa propre monnaie.
C'est cela.
Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, même pour battre sa propre monnaie, c'est la première ligne qui est importante. Si cette première ligne vous permet d'avoir tous les capitaux qu'il faut, toutes les devises qu'il faut, et que ces devises peuvent vous permettre de soutenir votre demande de monnaie intérieure, battez monnaie. Voilà. Mais si vous n'avez pas cette capacité, si vous savez que pour avoir des devises, il faut certainement vous adresser nécessairement à des institutions multilatérales, il faut vous adresser à des pays amis, il faut vous adresser à des opérateurs économiques, j'estime pour ma part qu'il vous sera très difficile de battre monnaie, puisque aujourd'hui, les gens estiment que battre sa propre monnaie, c'est ça qui est la souveraineté. Bon, et ça dépend de l'analyse qu'on fait. Mais moi, je pense qu'une véritable souveraineté, c'est celle qui vous permet de soutenir la valeur externe de votre monnaie et d'avoir la possibilité d'effectuer des opérations financières avec l'étranger. Justement, quand vous n'avez pas cette possibilité-là, quand vous n'avez pas les devises escomptées, on va certainement y arriver. Mais cela entraîne les crises qu'on est en train de voir à travers le monde. On parle tantôt de pénurie un peu partout. Mais la pénurie, elle provient de quoi? Mais elle peut provenir simplement d'un manque de devises. Et s'il y a pénurie, c'est qu'il y a inflation.
Voilà. Donc, après la deuxième ligne, on a quelle autre ligne?
Dans cette deuxième ligne, après le compte du capital, on a le compte financier. Ah, le compte financier, qu'est-ce que c'est? Dans le cadre de la gestion de notre politique économique et financière, on peut avoir besoin de fonds, voilà, des fonds pour pouvoir compléter certaines opérations. C'est-à-dire, si nos recettes n'arrivent pas à atteindre le niveau de nos dépenses, on s'endette. Et très souvent, au niveau des États, ce sont des bons et des obligations du trésor qu'on émet. Voilà, et on les émet à travers le monde entier. Et ce sont des bons qui nous rapportent des devises. On peut les faire dans la sous-région. Dans la sous-région, c'est en francs CFA. Même si les francs CFA sont chacun à sa lettre quand même, mais toujours est-il que c'est en francs CFA. Mais de l'autre côté, c'est en devises, au-delà de la sous-région. Et en devises, ça nous permet justement de payer nos transactions financières avec l'étranger. Et c'est en cela que le compte financier est important. Alors lorsque vous faites la somme de cette balance des capitaux, plus la somme de la balance des opérations courantes, qui dépend énormément de la balance commerciale, on a un solde global, qui est un solde économique. C'est celui-là qui s'échange en signe contraire avec le solde monétaire.
Justement, quand nous avons ce solde, on l'interprète comment pour savoir que oui, cette année, année X, le pays a été performant?
Alors, ce solde monétaire, s'il est positif, c'est que le pays n'a pas été performant.
C'est incompréhensible.
Voilà.
C'est ça. Pourquoi quelque chose de positif, dans notre entendement, c'est quelque chose de bon?
Je vous disais que le solde monétaire, on dit monétaire, il est négatif. Mm-hmm. Quand négatif, c'est prélevé. L'origine même de ce solde-là, c'est ça. Et puis au-dessus, on a le solde global, qui lui est positif. Mais jusque-là, au niveau du solde global, ce sont des entrées et des sorties de devises. C'est une simple comptabilité.
Oui.
Mais c'est en bas qu'il y a un stock. Voilà, c'est pourquoi je suis obligé de vous dire que c'est un solde monétaire. C'est lui qui est tout est important. Mais c'est lui qui nous permet justement de faire l'analyse objective dont vous êtes en train de parler. Alors, ce solde monétaire, c'est lui qu'on regarde pour gérer le niveau de la demande intérieure de monnaie. Vous savez que chaque année, en fonction de nos transactions financières avec l'étranger, et puis au plan intérieur aussi, on réalise ce qu'on appelle un PIB, qui est un produit intérieur brut. C'est notre richesse nationale. Mais cette richesse nationale, ça c'est au plan intérieur. Elle correspond au plan extérieur, à un stock, au solde monétaire de la balance des paiements. Ici, on a un PIB. De l'autre côté, on a des avoirs extérieurs nets. Si vous ne les avez pas, pour un pays qui est ouvert sur l'extérieur, c'est que votre PIB n'a pratiquement pas d'importance. Voilà. C'est avec le PIB qu'on fait la demande intérieure de monnaie. Et lorsqu'on fait la demande intérieure de monnaie avec le PIB, il faudrait que ce PIB soit en adéquation avec le solde monétaire de la balance des paiements. Le PIB, en d'autres termes, est égal au niveau des avoirs extérieurs nets, qui est le solde monétaire de la balance des paiements. Alors, quand on fait une équation de la demande de monnaie, et cette équation doit tenir compte de ces deux paramètres. Au plan intérieur, le PIB, par exemple.
PIB, c'est le produit intérieur brut.
Intérieur brut, qui est la richesse nationale. Donc, l'importance de cette balance des paiements, c'est ça. Quand vous n'avez pas d'avoirs extérieurs nets, vous êtes obligé d'aller en chercher à l'extérieur.
Alors, à quel moment, justement, ces situations, surtout la dernière que vous présentez, peut créer des cas d'inflation, puisqu'on en a parlé?
J'ai fait très à ça tout à l'heure. Et c'est que l'opérateur économique, par exemple, qui a défense CFA et qui se rend au ministère de l'Économie et des Finances, d'abord à sa banque, où il dit à son banquier que je veux importer des bois de lait, par exemple, d'une valeur, j'allais dire, d'un milliard de francs CFA. Et le banquier va lui délivrer une autorisation d'échange. Et il va se rendre au ministère de l'Économie et des Finances, plus précisément au Trésor public, voilà, pour pouvoir faire valider cette autorisation d'échange. Une fois validée, elle va lui permettre, au niveau de la Banque centrale, d'avoir les devises escomptées en euros, par exemple, si c'est avec la France, pour acheter sa marchandise. Mais s'il arrive à la Banque centrale, si l'autorisation arrive au niveau de la Banque centrale et qu'elle n'a pas les devises escomptées, et si on n'a plus les devises, c'est que l'opérateur économique ne pourra pas importer et la marchandise qu'il est en train de vendre, ben, le niveau va baisser. Et à un moment donné, ça va entraîner une certaine pénurie. Et si ça entraîne une pénurie, le niveau des prix va commencer à augmenter. Et quand c'est général, quand c'est à tous les niveaux, parce que ce qui arrive à cet opérateur, ben, ça va arriver aussi aux autres opérateurs. Vous comprenez?
Oui, c'est cela.
Et on rentrera alors dans un cycle qui est celui de l'inflation. C'est-à-dire une augmentation du niveau général des prix due purement et simplement à une pénurie. En matière de produits, pénurie qui est due d'ailleurs à un manque de devises au niveau de notre banque centrale.
Comme quoi l'importance des devises, hein, les monnaies étrangères, c'est vrai, c'est pas des monnaies qu'on utilise dans le pays donné, mais elles ont leur importance parce que elles consolident notre propre monnaie, nos relations avec ces pays-là, notre dynamisme commercial de ces pays consolide notre monnaie. On peut dire garantissent notre monnaie indirectement.
Tout à fait. Il y a deux étapes. C'est-à-dire, ça garantit non seulement la demande de monnaie extérieure, mais ça vous permet aussi de faire des transactions financières avec l'étranger.
Merci à vous, Monsieur Onozon.
Je vous en prie.
Pour ces éclairages. Moi, mes auditeurs, on va se retrouver pour d'autres émissions avec Monsieur Faustin Onozon, d'autres sujets sûrement qui vous intéresseront. Merci à vous.
Tendance de la bourse.
Après la vente des actions que détenait l'État au sein donc de la société de téléphonie mobile Orange Côte d'Ivoire, elle est entrée officiellement en bourse en début de ce mois de janvier 2023. Revenons sur l'événement avec Jean-Claude Mabéa dans les tendances de la bourse.
Cette cérémonie marque l'entrée de la Côte d'Ivoire dans le cercle restreint des pays africains cotés à la bourse, d'où la particularité de cet événement. Edo Kofi Aménouvé, le directeur général de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières.
La Côte d'Ivoire vient de s'inscrire sur ce palmarès africain avec la cérémonie de ce jour en réalisant la cinquième et la dernière introduction en bourse en Afrique en 2022. C'est donc pour moi l'occasion de saluer la forte volonté politique de l'État ivoirien et l'engagement du comité de privatisation sans lesquels cela n'aurait été possible. L'admission à la cote de la BRVM d'Orange Côte d'Ivoire ce jour vient porter à 35 le nombre total de sociétés ivoiriennes cotées. importés sur notre marché.
Prévue pour 2 semaines, cette opération n'a duré que 2 jours, vu l'engouement des souscripteurs, selon Roselyne Abbé, chef de file de la dite opération.
Nous avons ainsi collecté des souscriptions d'un montant total de plus de 187 milliards de francs CFA, soit un taux de souscription de 132%.
Présidant cette cérémonie, le ministre de l'Économie et des Finances s'est félicité des résultats enregistrés au cours de cette opération. Adama Koulibaly.
Les résultats présentés ce jour attestent que la politique de promotion de l'actionnariat populaire a donné aux Ivoiriens le goût de l'épargne et de l'investissement. En saluant ce dynamisme, je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué au succès.
Notons que c'est à 9h45 qu'il y a eu l'ouverture et l'entrée officielle d'Orange Côte d'Ivoire sur le marché boursier, marqué par 2 sonneries de cloche.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.